Visite guidée du cimetière Notre-Dame-des-Neiges en compagnie d'Alain Tremblay, directeur de l'écomusée de l'au-delà. Ici, l'histoire individuelle rejoint l'histoire collective et les morts n'ont pas fini de nous parler.
Mesdames, Messieurs, si vous voulez vous approcher, on va commencer notre visite. Ici, depuis 1855, il y a environ entre 900 000 et 1 million de personnes qui ont été inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il y a actuellement dans le cimetière, ils ont compté les monuments il y a quelques années, il y a environ... Il y a 90 000 monuments. Ça veut dire que ça fait une moyenne d'environ une dizaine de personnes par monument. Alors, voici pour les trucs de base. Comme il y a beaucoup de bruit, on va s'avancer. Si c'est possible de marcher le plus rapidement possible, ça va nous permettre de voir le plus de terrain. Et puis, on s'avance, on va faire environ... 500 mètres, là. Puis après ça, on va continuer. C'est beau?
Le 17 septembre 1991, avec quelques amis, on a fondé un organisme qui s'appelle Écomusée de l'au-delà, qui est un organisme qui a pour mission de préserver et faire connaître le patrimoine funéraire au Québec. On s'intéresse pas seulement au patrimoine des cimetières, on s'intéresse à tout ce qui concerne le patrimoine funéraire. Parlons par exemple des catafalques à baldaquins, tous les objets qui sont utilisés pour les rituels, les voitures funéraires tirées par les chevaux. Il y avait tout aussi les représentations de l'au-delà. On sait que dans les églises, par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qui sont sur les murs. Mais ce qu'on a fait surtout depuis 20 ans, c'est surtout de connaître. Parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît.
Voilà. La personne qui est commémorée ici, Alphonse Venn, c'est un architecte qui a travaillé sur la création de l'oratoire Saint-Joseph. Mais ce qui est intéressant, on voit, c'est la forme art déco. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est dans le cimetière, c'est un reflet, hein? c'est une métaphore de la ville, c'est un double de la ville. Chaque monument, c'est la maison symbolique, de famille, tout ça, mais ça va aussi être caractéristique d'une époque. Alors, si vous êtes à l'époque victorienne, il y avait des monuments style victorien. Ensuite, il y a des monuments modernes. Alors, on retrouve tout le temps dans le cimetière une des représentations de l'architecture qu'on va voir dans la ville.
Il y a différents types de cimetières. Par exemple, comme le cimetière Mont-Royal, sur le Mont-Royal, c'est un cimetière protestant, mais c'est la compagnie du cimetière Mont-Royal. Donc, vous achetez un terrain, puis le terrain vous appartient. Si vous achetez un cimetière à Notre-Dame-des-Neiges, ça, c'est un cimetière de type paroissial qui est géré par la Fabrique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Comme c'est un cimetière paroissial, c'est considéré comme un bien d'église. Donc, vous n'achetez pas un terrain, vous achetez une concession, vous achetez un droit d'utilisation du terrain pour une période déterminée. Mais ce qui arrive, c'est qu'au bout de deux ou trois générations, les gens qui ont fait ériger des grands monuments, qui ont beaucoup d'ampleur, ça demande de l'entretien, parce qu'il n'y a rien d'éternel. Et puis là, les descendants ne veulent pas payer, et souvent on n'arrive pas à les rejoindre. Donc, les fabriques paroissiales n'ont surtout pas envie de reconnaître qu'ils sont propriétaires d'un ouvrage qui est à l'abandon, mais qui a un intérêt patrimonial, parce que là, ils vont être obligés de payer pour son entretien. Et surtout, si on regarde, par exemple, à Montréal, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, c'est un des cimetières avec les plus beaux, les monuments les plus exubérants, les plus extravagants, mais un nombre important sont en, sont en déshérence.
Ici, vous avez un monument très intéressant. Malheureusement, il y a deux anges qui ont été voilés, des très, très, très beaux anges. Et vous avez la gisante, comme on appelle, qui a été faite par un sculpteur italien qui s'appelait Sgandura. Puis ce qui est amusant, c'est que ça a été fait en Italie. C'est une création. Quand l'œuvre est arrivée, elle avait un sein découvert. Mais quand les curés qui s'occupaient du cimetière ont vu ça, ils ont dit « pas question ». Pas question que ça rentre dans le cimetière. Donc, ils ont été obligés de retourner l'œuvre en Italie pour la rhabiller. Et puis, voilà. Alors, ça a donné ça. Ouais, ben là, on ne refait pas l'histoire, là. Mais c'est quand même amusant. Donc, on va poursuivre ici,
si vous voulez. Si vous voulez faire une distinction entre le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et le cimetière Mont-Royal, le cimetière Mont-Royal est plus un arboretum, il est vraiment du style cimetière-jardin. C'est un équilibre minéral-végétal. Mais les monuments au cimetière Mont-Royal, comme je vous disais tout à l'heure, ne sont pas très gros. Par contre, à Notre-Dame-des-Neiges, les monuments ont beaucoup d'ampleur, il y a des alignements, puis les arbres sont alignés au pourtour des îlots. Donc, vous avez plusieurs îlots, ce qui donne un caractère monumental. Par contre, il y a certaines sections du cimetière qui ressemblent plus au concept de cimetière-jardin. Donc, on pourrait dire que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un cimetière hybride entre le cimetière-jardin et le cimetière monumental.
Écoutez, comme on a pris un petit peu de retard, si ça ne vous dérange pas, on pourrait essayer d'accélérer un peu le pas. Ça va vous réchauffer, OK?
Le début des cimetières-jardins, ça a commencé avec le cimetière du Père-Lachaise, entre autres. Mais évidemment, la minéralisation puis la grande densité a fait que la caractéristique de cimetière-jardin s'est beaucoup atténuée pour devenir, avec le temps, de plus en plus monumentale, parce que les monuments ont beaucoup d'ampleur, sont très organisés. Et il faut comprendre aussi que le cimetière du Père-Lachaise, on parle de 44 hectares. Quand on arrive seulement à Notre-Dame-des-Neiges, on est à 150 hectares. Donc, on avait beaucoup plus d'espace. Tu sais, le monument a de l'importance, mais encore plus d'importance dans le contexte d'un alignement, dans le contexte de la mise en valeur d'un paysage. On est sur une colline. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut tenir compte dans l'appréciation du patrimoine funéraire.
C'est toujours le même circuit ou vous avez plusieurs circuits différents?
Oh non, moi, c'est en fonction du groupe, de la vitesse où il marche. Ouais, okay. Parce que c'est toujours la même matière, mais je peux la donner n'importe où dans le cimetière.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'il y a des personnalités célèbres partout dans le cimetière. Par exemple, je parle pas beaucoup de la végétation, mais ce qui est important sur le Mont-Royal, les arbres les plus remarquables de la ville de Montréal se trouvent dans les cimetières. Les arbres les plus extraordinaires, on parle de presque 400 ou 500 arbres remarquables à Montréal qui se retrouvent dans les cimetières. Donc, c'est des arboretums. Alors, au centre de l'allée, vous avez ce qu'on appelle le charnier. Mais le charnier, ici, c'est pas la même signification qu'un charnier en Europe. C'est complètement différent. Donc, ici, c'est un endroit où on mettait les morts l'hiver en attente de les enterrer au printemps. Alors, on pouvait mettre jusqu'à 700 dépouilles là-dedans. Donc, quand arrivait la fonte des neiges, il y avait beaucoup, beaucoup de travail au printemps pour enterrer les morts. Donc, c'est la partie centrale du cimetière. De chaque côté, vous avez des promontoires. Donc, ça, c'est juste dans l'entrée du cimetière. Puis, à l'arrière, il y a un grand monument. On voit la pointe de l'obélisque. On va s'y approcher tout à l'heure. Alors, ça, c'est le monument aux victimes politiques de 1837-38. Et ce qui est amusant, c'est que les patriotes ont été excommuniés Mais 20 ans plus tard, pour faire la promotion du cimetière, l'Église a fait comme une espèce de pirouette pour se justifier, parce que la population était derrière quand même les patriotes. Et de l'autre côté, sur un autre promontoire qu'on va voir tout à l'heure, on fait la translation des restes de Ludger Duvernay, qui est le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était décédé en 1852, inhumé au cimetière Saint-Antoine, dans le centre-ville. Et puis là, on organise en 55, à l'automne, une grande procession. On exhume les restes de Duvernay. On parle de 10 000 personnes qui suivent le cortège. Alors là, évidemment, ça fait les manchettes. Puis il faut comprendre, quand tu ériges des grands monuments où tu mets des personnalités publiques, bien, ça a un effet de faire vendre des terrains. Parce que les gens se regroupent dans la mort pour toutes sortes de raisons, pour des affinités politiques, idéologiques, familiales, ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, on va s'avancer dans cette direction-là, puis on va regarder d'autres choses.
Mais au niveau des pratiques funéraires, c'est important de comprendre qu'on est une société catholique. Pour des raisons historiques, l'Église a toujours voulu contrôler le cimetière parce que c'était une façon d'exercer un contrôle sur la population. Parce qu'on sait que le pire des châtiments qui pouvaient nous arriver, c'est d'être excommunié. Puis être excommunié, c'est un refus de sépulture chrétienne. Donc, le cimetière a toujours été vu comme un moyen d'exercer un contrôle social. Donc, c'est de l'historique. Pourquoi c'est les fabriques paroissiales? Au début des années 60, est arrivé deux phénomènes importants. La crémation, qui devient acceptée par les catholiques. Et puis, l'éclatement de la famille. Les gens, maintenant, ils vont mourir, mais ils ne veulent pas nécessairement être enterrés avec les parents. C'est un phénomène nouveau. Puis les enfants vont changer de ville, vont aller vivre là. Donc, c'est l'éclatement de la famille. Donc, ça se reflète dans le cimetière, c'est l'éclatement du cimetière. Donc, ça a eu un premier impact sur le cimetière. Puis là, maintenant, la crémation touche maintenant presque 70% de la population va opter pour la crémation. Donc, ça prend beaucoup moins d'espace dans le cimetière. Et là, il est arrivé un nouveau phénomène qui, dans les 70% des gens qui optent pour la crémation, il y en a presque 15 à 20%, il n'y a pas de chiffre exact qui ont encore été recensés, mais qui, les gens partent avec les cendres pour les disperser dans la nature. Donc, c'est la première fois que la fonction même du cimetière est remise en question. Si les gens partent avec les cendres, puis vont les disperser dans la nature, les mettre dans un cours d'eau, ou aller les disperser comme on voit régulièrement dans des champs de fleurs, par exemple, au jardin botanique, ça veut dire quelque chose. Donc, on n'a pas apporté de jugement sur un rituel qui, même si on ne comprend pas la nature profonde du rituel, a un sens. Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, pour une guérison du deuil, d'avoir une proximité avec les restes? Si on brûle le cadavre, il y a déjà une dématérialisation importante qui crée une distance entre les endeuillés et le défunt. Puis si en plus de ça, on disperse les cendres, ça fait la relation avec les restes et devient encore beaucoup plus ténue. Par contre, on a beaucoup d'exemples où il y a des monuments, par exemple, un écrasement d'avion à Petit-Gros ici, là, les endeuillés, ils sont allés ériger un monument le plus près possible sur la rive, à proximité de l'endroit où l'avion était tombé en mer. Bien, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc, les endeuillés vont aller à proximité d'un monument, même s'il n'y a pas de corps. Puis le travail de deuil se fait pareil. Il n'y a personne qui a été capable de montrer la nécessité absolue qu'il y a un lien entre le lieu de sépulture et le deuil.
OK, alors ici, C'est la partie la plus élevée du cimetière. Évidemment, c'était le calvaire. Évidemment, la raison pour laquelle le terrain n'est pas encore développé, c'est simplement parce que, comme c'est le sommet, c'est du roc, donc ils ne pouvaient pas creuser. Mais aujourd'hui, les gens veulent tellement être ici que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dynamiter, ils font des grands trous, après ça, ils mettent de la terre, puis là, ils peuvent vendre des terrains. Ce qui explique en partie pourquoi les terrains coûtent très, très, très cher. Alors, on est rendu au sommet. Hein? Alors, c'est toujours prestigieux. Plus vous êtes au sommet, plus l'élévation, plus vous êtes près de Dieu, puis plus le terrain coûte cher.